Les news du Docteur Lacave.
Toute l'info et l'actu pop culture.
Présenté
par le Docteur Lacave.
Docteur Lacave, toute l'actualité pop culture avec toi aujourd'hui, en plus en version, je dirais, spéciale. Bonjour Docteur Lacave.
Oui, bonjour. Enfin, si on peut dire bonjour, parce que pas bonjour.
Pas pour bonjour la pour pop les culture. News. Exactement.
Bah, voilà, donc émission spéciale, on l'a appris aujourd'hui, ce matin. Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, s'est éteint le 1er mars 2024. Une annonce qui a été faite par son studio et son éditeur. Voilà. Donc on l'a appris. Il est mort d'un hématome sous-dural, donc maladie, comme on peut dire, du cerveau, quoi.
Voilà. Oui, oui, oui.
À l'âge de 68 ans. Et comme on dit, la providence, non pas la providence, mais le destin étant ironique. Il s'éteint au début de cette année du dragon.
Ah ouais ?
Et oui.
Incroyable.
Et pour l'année qui va fêter les 40 ans de Dragon Ball. Voilà.
Ah ouais, donc... ouais.
Donc une symbolique assez, comment dire, ironique, on va dire. Hein, voilà. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. En tout cas, triste nouvelle. Donc émission spéciale où on va revenir justement sur l'homme, l'artiste. Et sur ce qu'il a fait et en quoi il a changé à tout jamais le paysage. Là, on peut même dire plus loin que la pop culture, mais de la culture générale. Parce que Dragon Ball, tout le monde connaît Dragon Ball, tout le monde connaît Son Goku.
Exactement, au moins de nom, on connaît forcément juste Dragon Ball, on a forcément cette visualisation. Voilà, quand on a Dragon Ball, on a le dessin et le personnage aussi en tête.
Oui, non, mais c'est pour ça que là, ça va au-delà. On va revenir un peu sur sa biographie. Hein, Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, au Japon, ça semble évident. Il a étudié le design dans la préfecture industrielle Ajikoul de Nagoya. Sans avoir de formation artistique de base, en fait.
Voilà. Okay.
C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très attiré, alors, ça ne fait pas bien de le dire, mais par tout ce qui était voiture, chars d'assaut, on va dire tout ce qui était mécanique, ouais. Mais aussi un peu plus loin par les armes. Donc, il faisait des reproductions de maquettes, notamment, qui redessinait derrière. Et c'est pour ça que dans ses dessins, au moins au tout départ, on avait souvent des engins assez atypiques, et il y a toujours ça qui est resté. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une news où on parlait de Sandland, qui était un jeu qui devait sortir tiré d'un manga, ou dans un univers où il n'y avait pas d'eau, et il y avait des tanks, etc.
Oui, enfin, justement, il y a vraiment tout ce côté mécanique en fait, qui l'a attiré aussi dans ses dessins.
Et c'est vrai qu'il avait tout fait pour que... on puisse porter à l'écran cette série qui était une mini-série en manga et un jeu donc, qui va sortir quand même, hein, malgré tout. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Il commence le manga assez tard, en 1978, avec la publication d'un comic manga. Alors, comic manga, c'est dans le sens humoristique, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de manga, et donc ça s'appelle Wonder Island. Ça connaît un succès d'estime, hein, voilà. Enfin, il se fait découvrir, mais c'est là où il va rencontrer son éditeur de toujours, le fameux Torishima, qu'on retrouvera d'ailleurs sous forme caricaturée dans Dr. Slump, sa première grande série, comique toujours. Mais si on regarde bien, on a tous les prémices d'un Dragon Ball dedans, hein, donc... Voilà, on reviendra un peu plus sur Dr. Slump, qui est... Oui, vas-y, excuse-moi.
C'est moi. Justement, je suis curieuse de savoir pourquoi tu dis qu'il a commencé tard le manga. C'est dans sa formation, il avait déjà de quoi dessiner et finalement tard.
C'est-à-dire que quand tu passes à dessiner, designer des armes ou designer des produits industriels à faire du manga, il y a un monde entre les deux, hein, en fait. Hein.
Oui.
Donc c'est pour ça, et c'est vraiment quelque chose qui l'amusait, puis c'est quelqu'un qui était assez drôle. Et faut aussi comprendre qu'en 78, c'est pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui un gamin, il veut être mangaka, donc créateur de manga, créateur de bande dessinée, créateur de jeux vidéo. Il y a plein de filières qui existent maintenant. On peut l'accompagner. À cette époque, ça n'existait pas. Enfin, voilà, c'est comme si on disait, tiens, je veux faire de la BD en 1960. C'est très compliqué, en fait. Il y a quelques personnes qui en font, mais il faut se former, il faut connaître les gens. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, quoi.
Oui.
Donc, c'est quand même assez compliqué.
Donc tard dans le sens où il faut quand même avoir toutes les informations avant de commencer,
etc. Oui, c'est ça. Et puis surtout qu'il n'était pas à la capitale. Donc voilà, c'est pareil. Hein. Il y avait, je ne vais pas dire l'exode rural, mais le Japon rural, ce n'est pas le Japon urbain. Donc il y a aussi tous ces freins-là qui font que... et voilà, pour le coup, il est resté assez longtemps justement dans le côté rural du Japon pour avoir un peu de tranquillité et ne pas avoir à subir le tumulte de la ville. Voilà. Bah voilà, en tout cas, donc on peut rattaquer sur Dr. Slump. Donc Dr. Slump, je ne sais pas si tu connais.
Pas du tout.
Alors c'est marrant, ça s'appelle Dr. Slump, et dans le manga, il n'y a personne qui s'appelle Dr. Slump. C'est juste le nom qui est rigolo, Slump. Voilà, donc en fait, c'est le Dr. Senbei Norimaki, qui est un génie de son état, qui construit un petit robot qui s'appelle Arale. Et chose plutôt amusante, quand il construit, le robot voit assez mal parce qu'il est myope. Donc,
il a fait un robot myope.
Voilà, donc tu vois, c'est tout plein de trucs rigolos comme ça. Le trait est très très intéressant parce qu'il est tout en ligne courbe, tout en rondeur, et on verra qu'il perdra ce style au fil des années justement. Et le personnage se cartoonisera avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on a une fillette qui a à peu près 14 ans pour finir sur une fillette qui a à peu près 6 ans, quoi. Ce qui est assez bizarre parce que c'est un androïde qui ne connaît pas sa force, etc., et qui est très très naïve. Et en fait, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un robot imparfait, et ça laisse place à énormément de gags et surtout un style assez dynamique, encore rarement atteint dans les mangas, quoi. C'est pour ça qu'il gagne le prix Shogakukan en 1982, donc qui est un prix prestigieux du manga. Première série à succès. Première récompense. On va voir que c'est des choses qui vont le suivre. Et en fait, Dr. Slump, c'est tellement populaire qu'il y a une adaptation en dessin animé qui arrive. Et d'ailleurs, il y a même un film de Jackie Chan, où Jackie Chan est déguisé en Arale Norimaki et qui fait du kung-fu, etc. Ce qui est assez rigolo et assez raccord avec le personnage. Parce que c'est un personnage qui n'a pas spécialement d'aptitude pour se battre, mais qui est tellement forte que ça en devient absurde. Elle rencontrera plusieurs fois les personnages de Dragon Ball qui en ont peur tellement que sa force est absurde, en fait. Voilà, c'est-à-dire que elle met un coup de poing par terre, ça coupe la terre en deux, mais littéralement, tu vois. C'est,
ok.
C'est assez rigolo, et c'est là qu'on apprend qu'en fait, l'univers de Toriyama est un univers où tout le monde peut se rencontrer, tout se passe au même endroit, dans un même lieu, etc. Donc, suite au succès de Dr. Slump, notre cher Akira Toriyama a envie de s'attaquer un peu plus à du manga d'action. Comme je disais, il adore le kung-fu, il adore les films de Jackie Chan, etc. Donc, il essaye plusieurs choses jusqu'à arriver à Dragon Ball en 1984. Donc, voilà, donc 40 ans.
Oui, le fameux.
Voilà. Donc, oui, voilà pour les petites tempes grisonnantes pour ceux qui regardaient ça à l'époque. Et donc, on découvre Sangoku. En quête des boules de cristal en France, mais des Dragon Ball en japonais, en version internationale. Disons que nous, on a des petites traductions un peu étonnantes, voilà, mais bon.
Donc pour nous, ça a été une chasse aux boules de cristal.
Bah oui, Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Aucun rapport avec Tintin, hein, voilà. Donc, c'était les petites traductions françaises qui étaient... Ils faisaient ce qu'ils pouvaient à l'époque. Hein. Il y avait pas. En fait, il faut bien comprendre que quand Dragon Ball arrive, il y a les Chevaliers du Zodiac, il y a Dragon Ball, et le reste, c'est des trucs américains, de Hanna-Barbera, etc. Donc, on avait déjà eu la génération Goldorak Candy, qui avait un peu... Mais là, on arrive sur des trucs, les dessins sont bizarres, il y a des hommes anthropomorphes, les gens ne comprennent pas trop, il y a un peu de violence, un peu de grivoiserie dans un dessin animé pour enfants, donc ça a tendance à étonner. Et puis même le trait est très exotique. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'inspiration de Dragon Ball, c'est inspiré du Sayuki, le voyage vers l'Occident, qui est un conte chinois très très célèbre au Japon et en Chine. Et en fait, c'est inspiré du coup de graphismes un peu chinois. Ce qui fait que les gens, comme ils connaissaient rien à l'époque, ils disaient « Ouais, c'est un dessin animé chinois. » Il n'y avait pas encore le principe de japonaiserie, comme on apprendra plus tard.
Oui.
C'est-à-dire que « Ouais, c'est chinois. » Tu vois, c'était même pas, c'était même pas japonais. Voilà, bon, on va dire que ça, c'était les gens en bas du front.
Tout est mis dans le même panier, quoi.
Voilà, tout est mis dans le même panier. Et pourtant, on découvre donc une aventure donc, d'un petit enfant singe. En fait, c'est un enfant qui a une queue de singe, qui maîtrise comme jamais l'art du kung-fu. Il va rencontrer des personnages comme Bulma, Yamcha, Tortue Géniale, et ça va arriver à un moment où il va y avoir des tournois d'arts martiaux. En fait, le manga peine un peu au départ, hein. Il convainc pas tout de suite, puisque c'est un manga d'aventure où il faut aller chercher 7 boules de cristal pour réaliser un vœu. Et en fait, voilà, une fois qu'ils ont trouvé les 7 boules de cristal, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, quand on ne sait pas quoi faire dans un manga, on fait un tournoi. Et là, à partir du premier tournoi, ça cartonne. Et on est un peu plus basé sur l'action que sur l'aventure. Et justement, eh bien, on va pouvoir écouter le générique du premier Dragon Ball qui s'appelle Makafushi Adventure. Donc Makafushi, c'est mystérieux hein, en japonais. Et Adventure, l'aventure. Voilà. Voilà, c'était donc Makafushi Adventure, le générique de Dragon Ball. Donc, je ne sais pas si tu as fait attention, mais on a bien des sonorités chinoises.
Je ne suis pas encore assez spécialiste de tout ça, mais...
On est sur la musique qui rappelle quand même le folklore chinois.
En tout cas, on s'y met et bien sûr, on s'informe dans cette émission.
Petite anecdote, il faut savoir que cette musique donc, qui était japonaise, on l'entendait quand même dans la version française, ne serait-ce que par les OST, donc les original soundtrack, la bande originale qui était derrière. Mais surtout, donc Brigitte Lecordier, qui est la doubleuse, la comédienne de doublage qui prêtait sa voix à Sangoku Petit, qui était à Poitiers, justement, au Pic d'Asia la dernière fois. Hein, voilà, donc comme quoi, tout est lié. Eh bien, généralement, quand elle fait ses dédicaces vocales, elle fait un truc où elle fait « Je suis Sangoku, ta-na-na-na-na » Et en fait, c'est les musiques du générique.
Okay.
Parce que beaucoup disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait ta-na-na-na-na, d'où ça sort ?» Et en fait, ce sont les musiques du... C'est-à-dire que la doubleuse originale japonaise, elle l'avait intégrée dans le... Dans la voix de Sangoku, par exemple, quand il faisait un truc, il faisait la musique du générique, ce qui était assez drôle, c'était ce qu'on pourrait dire assez méta. Et du coup, en français, il y avait quand même le nuage magique, nanana, tu vois, donc il y avait quand même cet héritage qui était là. Voilà, c'était pour la petite anecdote, puisque ça vient comme ça, et voilà. On arrive ensuite, donc manga à succès, hein, animé à succès qu'on a eu en France, etc. Le petit Lacave était très content parce qu'il avait ses magazines, Club Dorothée Magazine, avec des posters. Il accrochait ses posters. On était en 88, il avait 8 ans et c'était magique pour lui. Et ça changera à tout jamais sa vision de l'art graphique, on va dire. Ensuite arrive en 1989 au Japon la suite, qui n'est pas vraiment une suite, puisqu'au Japon ça s'appelle toujours Dragon Ball, mais chez nous ça devient Dragon Ball Z. Et chose ô combien originale dans ces années-là, les héros ont grandi.
Donc on avait Dragon Ball pour la quête des boules de cristal et Dragon Ball Z pour
les combats.
Les combats.
Et en fait, c'est-à-dire que Sangoku, quand commence l'aventure, il a 12 ans. Dans Dragon Ball Z, il passe à l'âge adulte, il va se marier, enfin voilà quoi, il a un enfant.
C'est génial.
Voilà. Donc les héros évoluent en même temps que le public, ce qui apporte un affect encore plus incroyable. Donc Sangoku est marié et il a un enfant qui s'appelle Sangohan, qui est le nom de son grand-père. Voilà, bon bref, enfin, qui n'est pas le nom du grand-père de Sangohan, mais qui est le... Bon, t'as compris quoi.
Ouais, ouais,
le... Qui est le nom du grand-père de Sangoku. Et là, on passe... un manga d'aventure d'action à quelque chose qui se rapproche de plus en plus vers Star Wars, au space opéra, au combat grandiloquent mêlant Terminator avec des combats contre des cyborgs et des voyages dans le temps, à quelque chose de complètement voilà, enfin je veux dire là Dragon Ball Z quand ça arrive ça devient n'importe quoi, je veux dire dans le sens où c'est ultra populaire. On a le Super Saiyajin, le Super Saiyan, où le personnage est tellement puissant qu'il change ses cheveux. Enfin, quand il s'énerve, ses cheveux changent de couleur, ses pupilles changent de couleur. Il est tellement en colère qu'il est trop badass et c'est trop bien. Voilà. Donc, les ennemis comme Freezer, Cell, Boo, etc. Donc, ça, c'est le point d'orgue. Je ne sais pas si toi, ça te parle, ces noms-là. Mais les Namek, non, ça ne te dit rien. Tu as jamais entendu ça? On trouve dans certains clips de rap ou certaines chansons des références directement. D'ailleurs, un groupe de rap qui s'appelait le Saiyan Super Crew. Super Saiyan Super Crew, ça vient de là, en fait.
D'accord.
Ça vient des Saiyans, hein, voilà. Bon, Saiyan, en japonais, ça veut dire légumes. Donc, bon, ça veut dire l'équipe des super légumes.
Génial.
Ce qui n'est pas ouf, ouf. En tout cas, le succès est mondial. Il parle à tout le monde, à tel point que ça commence un peu à énerver en France, et on commence à faire des lois pour interdire les japonaiseries. On y arrive.
Ah voilà. Oui, on voulait pas à un moment justement tous ces animés, etc.
La fin de Dragon Ball n'a jamais été diffusée à la télévision publique. On devait soit regarder le câble, soit acheter en kiosque les cassettes vidéo.
Oui.
C'est-à-dire que la fin de Dragon Ball n'est jamais diffusée à ce moment-là à la télé. Ça le sera après sur d'autres chaînes, etc. Ça sera repris même d'ailleurs. La série sera remixée, etc. Voilà. Donc en tout cas, on est sur vraiment là l'œuvre la plus connue d'Akira Toriyama qui change à jamais la phase de la culture populaire. C'est ce qui a fait venir la Japanimation, ce qu'on appelle la Japanimation en France et plus tard dans l'Occident. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est les deuxièmes consommateurs de manga. En fait, on est les deuxièmes à avoir importé le manga, en fait. Et Dragon Ball a été un ambassadeur de poids. Il a même inspiré les auteurs de Naruto, de One Piece. C'est une œuvre majeure dans l'histoire de la pop culture, dans l'histoire même de la culture du Japon maintenant. Et ce que je te propose, c'est de découvrir le premier générique, où tu verras, il y a des paroles assez bizarres, puisque ça s'appelle Chala, Hey Chala. Et on est loin des choses qu'on avait en France avec Ariane qui chantait Dragon Ball Z, Z, Z. On est sur quelque chose d'un peu plus péchu.
Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。過去を蹴られた地球が起こって、火山を爆発させる。Fuck!
Donc voilà, c'était Chala et Chala. C'est quand même un peu autre chose que du Bernard Minet, hein, on ne va pas se mentir.
C'est différent.
C'est ça qui est incroyable dans les productions japonaises, c'est qu'en fait, que ça soit du manga ou que ça soit de la musique classique, la musique, on va dire, normale, c'est pris au sérieux, en fait. Voilà, c'est comme si nous, les génériques de dessins animés étaient faits par Akhenaton, mais ça, c'est ce qui a été fait avec Foot de rue, donc c'est un très mauvais exemple. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de sous-produit, c'est pas considéré comme sous-produit. En tout cas, à partir de là, Dragon Ball Z, véritable œuvre majeure dans la culture populaire. On a des dessins animés, on a des mangas qui arrivent en France et on a aussi une ribambelle de jeux vidéo, au point même où, rappelle-toi, on avait fait une news là-dessus, le prochain jeu Dragon Ball Z Sparking, justement. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu dans le générique, il dit Sparking, donc étincelle, et le fameux nom Dragon Ball Z Sparking vient de ce générique-là. Voilà.
D'accord, donc le nom du jeu est inspiré du générique
voilà,
du
exactement.
Film.
Voilà.
Incroyable.
Donc c'est, tout est lié.
Bah, bien sûr.
Et justement, en parlant de jeux vidéo, eh bien, notre cher Akira Toriyama n'est pas en reste, puisque non seulement il a changé la face de la Japanime, du manga partout dans le monde, mais il a aussi fait la même chose pour le jeu vidéo, parce qu'il a contribué à énormément de jeux vidéo. Et avant d'amorcer cette partie-là, j'aimerais bien que tu mettes la dernière musique, et je vous expliquerai après, et surtout où elle a été diffusée.
C'est parti. Je vais la numéro. Alors, ce n'était pas forcément le titre annoncé,
non,
mais ça reste dans...
Je suis un peu embrouillé dans mon déroulé. Mais c'est donc We Got Power. Mais ça correspond avec ce qu'on disait, puisque il faut savoir que ce titre-là a été diffusé en France pendant les films Dragon Ball, puisqu'il y a des films qui sont sortis au cinéma. Et plutôt que de mettre le générique d'Ariane, ils avaient mis ce générique-là. Et d'ailleurs, pour les rediffusions plus tard sur le câble, exit le générique français, les fans avaient gagné, c'était le générique japonais qui passait, le We Got Power. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans les versions espagnoles et italiennes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en fait, ils ont juste rechanté les paroles en espagnol. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, on a changé complètement les chansons. Et dans d'autres pays, c'était les versions originales qui étaient traduites directement. Voilà. Donc en fait, je voulais revenir sur le jeu vidéo. Et on devait avoir une autre musique, mais c'est pas grave. Et
ce sera pour après.
Ce sera pour après, et vous allez vite voir où je voulais en venir. Je voulais qu'on parle de Dragon Quest. Alors Dragon Quest, c'est vrai que c'est le jeu de type RPG japonais le plus réputé au Japon. Il a eu un peu plus de mal à s'exporter en Occident. Il était éclipsé par Final Fantasy. Hein, voilà. C'est-à-dire que je pense que tu connais plus Final Fantasy que Dragon Quest, si on te parle de jeu.
Alors, je ne sais pas si plus est vraiment le mot, mais...
Oui, mais enfin, je pense que tu entendras de toute façon plus de personnes parler de Final Fantasy que Dragon Quest.
Okay.
Donc, les designs sont faits par Akira Toriyama. Et Yuji Horii en est le créateur. Donc, il s'inspire des RPG pen and paper, donc... papier et crayon, hein, pour le mettre à la sauce japonaise. Et du coup, on a du médiéval fantastique dessiné par Akira Toriyama. Et le cocktail fonctionne du feu de dieu au Japon. Parce qu'il faudra attendre le Dragon Quest 8 pour que... oui, c'est le 8. Hein, le premier qui sortira en France, en fait, ce sera le 8.
Ok.
Donc c'est énorme en fait.
Ouais.
Donc pendant tout ce temps-là, les jeux sortent et ils rencontrent de plus en plus de succès, à tel point que à la sortie de Dragon Quest 3, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont plus au travail, les enfants ne vont pas à l'école, ils jouent à Dragon Quest, et le gouvernement, voyant une perte de PIB, dit maintenant les jeux ils sortent le samedi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà.
Comme ça, vous restez chez vous le week-end pour,
pour jouer. Ouais. Donc alors, c'est pas forcément avéré, c'est peut-être une légende, mais c'est dire à quel point ce jeu a un impact sur la culture japonaise. Et c'est-à-dire que Dragon Quest, comme ils disent au Japon, Drakue, hein, ils prennent les deux premières syllabes, est ultra populaire. Et c'est une série qui continue. On a eu Dragon Quest 11 sur la Switch, hein, dernièrement. Xbox, etc. Donc c'est quand même une série qui continue. Il était aussi dans les personnages de Dragon Quest étaient aussi dans Smash Bros. Donc tu vois, tout est lié finalement. Hein, voilà. Et surtout, c'est tellement populaire que là, on va pouvoir mettre la bonne musique. Vous allez entendre le thème de Dragon Quest, donc qui a été créé par Koichi Sugiyama, qui est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que à l'époque, on était sur Famicom, on était sur une console 8 bits qui faisait que des bip bip. Ils ont quand même appelé un compositeur classique pour faire la musique. Et Dragon Quest fait partie de ces jeux qui avaient des tournées de concerts philharmoniques.
Ok, en fait. Ah ouais, c'est
ah c'est classe.
Ouais.
Et là, ce qu'on va entendre, c'était il y a 4 ans où le Japon était un peu dans notre cas. Il faisait les Jeux Olympiques. Et là, ce que vous allez entendre, c'est une musique qui passait pendant le défilé des athlètes et c'est l'ouverture de Dragon Quest.
À l'écoute de l'écho des Choucas et bien sûr avec le docteur Lacave comme tous les vendredis pour cette chronique pop culture ce moment. D'ailleurs docteur Lacave, on peut revenir sur la thématique du jour.
Donc la thématique du jour c'est le décès malheureusement d'Akira Toriyama qui nous a quitté le 1er mars et l'annonce a été faite ce matin. Donc on revient un peu sur tout ce qui a été fait et son impact dans la pop culture puisque cela reste un jour noir quand même, un jour sombre. Et c'est toujours triste de dire que c'est fini, quoi.
C'est fini, ça nous... Voilà, là, du coup, on revient sur, en plus, dans un temps assez court, mais quand même, tout ce qui a été assez marquant, notamment ce titre, en fait, diffusé durant les JO.
Bah oui, exactement. C'est pour dire que, quand je vous dis qu'on parle de culture générale, quand quelque chose est diffusé à une échelle où il y a plusieurs milliards de personnes qui regardent, je pense qu'on est au-delà de la pop culture. Et moi, j'étais très content de ce qui se passait au JO à Tokyo parce que ça ancrait le jeu vidéo dans la culture normale, en fait. On ne parlait plus de pop culture, Bon, c'est vrai que les commentateurs brillaient par leur ignorance en ne savant pas ce que c'était les musiques, mais c'est pas grave, les musiques étaient diffusées. Et nous, de toute façon, comme on est les rois de la culture, on aura Aya Nakamura. Donc voilà.
Avec, voilà. C'est quoi, Edith Piaf, non? C'était pas
qui
ça
va chanter. Ouais, mais on va pas partir là-dessus. Non, on va rester sur la mémoire de Akira Toriyama.
C'est ça.
Et on va passer à un autre jeu, cette fois-ci. Donc, je vous ai parlé de l'impact culturel qu'avait Dragon Quest au Japon, qui a vu un peu plus de mal à s'intégrer en Occident. Et là, on va parler d'un jeu unique, qui est toujours sorti chez Squaresoft et qui est aujourd'hui Square Enix, qui est Chrono Trigger. Et là, accrochez-vous bien, parce que on a Akira Toriyama au design du jeu, on a Yuji Horii à la création, et avec lui, Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur de Final Fantasy. C'est-à-dire que les deux maîtres du RPG japonais s'associent pour faire un jeu avec Toriyama. Ce jeu s'appelle Chrono Trigger, c'est un jeu avec un voyage dans le temps, avec plusieurs fins possibles, et c'est, on peut dire, le bijou, le joyau, le plus brillant du RPG japonais, jusque-là, pour moi en tout cas, inégalé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a atteint un point tel qui fait que bah, ça devient plus ou moins le maître étalon, et surtout que tout le monde va en dessous. Enfin, on ne peut pas aller au-dessus, tellement c'est une bizarrerie. Alors en plus, il était sorti uniquement sur Super Famicom, donc au Japon, et sur Super NES. Il n'était pas sorti en France à l'époque. Il aura fallu attendre sa sortie sur DS, sur Nintendo DS, pour avoir une version française, et qui est aujourd'hui une des cartouches DS les plus recherchées, tant le jeu est, comment dire, mythique, quoi.
Oui, culte.
Oui, culte, il est complètement, complètement culte, et voilà. Et pour la petite anecdote, là, il y a le Final Fantasy VII qui est ressorti, et des créateurs de Final Fantasy demandaient comment les gens verraient un retour de Chrono Trigger. Bon, bah là, avec l'actualité, je pense que...
Oui.
je pense qu'on va y aller, quoi, voilà. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire. Alors bien sûr, on a pu parler de ça que pendant quelques minutes, hein, de tout ça. De toute l'œuvre de Toriyama, il faudrait des émissions de plusieurs heures. Voilà, mais je tenais à rendre hommage justement à ce pan de la culture qui a façonné, vraiment, pour le coup, c'est très personnel ce que je vais dire, mais qui a façonné ma façon de concevoir les personnages, les designs, les histoires. Et voilà quoi, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un vent nouveau, un vent frais, qui a réussi à inspirer toute une industrie et qui restera au panthéon des grands maîtres du manga et même de la bande dessinée, hein, voilà, au même titre que Tezuka. Pour l'instant, on va respecter les vœux de la famille qui demande de ne pas être dérangé. En fait, ils veulent que tout soit fait en petit comité, etc. On attend de voir si le Japon va faire des obsèques nationales. Osamu Tezuka les a eues. Il y aurait très peu de chances que ça ne soit pas le cas. Et il y a visiblement des petites organisations où les gens vont rendre hommage en faisant le geste symbolique du Genki-Dama. Alors je sais, tu dois dire, qu'est-ce que c'est que le Genki-Dama ?
Qu'est-ce que c'est que le Genki-Dama ?
Le Genki-Dama, en fait, c'est l'attaque universelle, donc c'est l'attaque mythique de Sangoku par laquelle il finit tous ses ennemis, où il appelle justement toutes les forces de la nature et les bonnes âmes à prêter leurs forces pour détruire les forces du mal. Et en fait, ça consiste en levant les bras au ciel et en donnant notre cosmo-énergie, notre force, aux héros, et je pense que voilà, c'est un peu à l'instar quand c'était le décès d'Alan Rickman, où les Potterheads avaient levé leur baguette au ciel. Je pense qu'il va y avoir ce genre d'initiative. Donc quand tu verras ça sur TikTok et sur les réseaux, tu penseras à moi, tu diras ah, c'est beau quand même. Voilà.
Ah oui, bien sûr. Et vous aussi, c'est ce qui est important, c'est que ben justement, c'est un très bel hommage. Bon, certes, résumé en quelques minutes, mais ça nous a quand même permis de retisser le fil depuis déjà des dizaines d'années. 40 ans,
30, 40 ans, oui.
40 ans, tout juste. Bon, eh bien, bel hommage et surtout merci beaucoup, Docteur Lacave, pour toutes ces précisions et d'accompagner cette lumière sur la pop culture. Merci beaucoup.
Et j'espère que la semaine prochaine, j'arriverai avec des meilleures nouvelles quand même.
Oui, voilà. On espère quand même un petit peu. Alors là, bah non, enfin, la semaine prochaine, en tout cas, il n'y aura pas l'écho des Choukas.
Ah oui, c'est vrai. Donc, et là, je ne vais pas promettre de venir parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire.
D'accord. Alors, surprise. En tout cas, si tu seras là, si tu peux être là, ce sera avec plaisir, bien entendu. Sinon, ça attendra la semaine d'encore après.
Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup. Les news du Docteur Lacave.
Toute l'info et l'actu pop culture.
Présenté par le Docteur Lacave.